États, les États de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les très grands petits bourgeois de la bonne santé.
Tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais des...
Non.
Mais que diable est-il dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi l'autre endroit de là?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans ce Scène de vie du mois de décembre 2020. C'est un vrai plaisir. Je vais refaire dans l'ordre. Bonjour dans ce Scène de vie, du mois de décembre. L'émission qui prend 100 ans, toujours une coproduction entre le Tangram et Principe Actif. Et c'est un très vrai gros plaisir ce mois-ci en particulier de pouvoir faire cette émission dans le studio. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Et bonjour JC. Et bonjour JC. Et bonjour les auditeurs. Nous sommes en direct dans les studios de Principe Actif, oui! On est vraiment très heureuse de vous retrouver là en direct, en studio, et de vous faire partager un moment vivant, en instant T, avec vous.
Tout à fait, parce que ces derniers mois, forcément, tout était un petit peu perturbé. On avait fait un septembre en extérieur. Je sais plus ce qui s'est passé, en fait. On arrive à un point où on ne sait plus ce qui se passe.
C'est du virtuel. Non, mais c'est vrai.
Nous avions fait des montages, nous vous avions fait des enregistrements, on avait fait plein de choses.
On est allé en extérieur,
on a fait de l'extérieur aussi. Ouais. Mais nous reprenons nos quartiers quasi en conditions normales dans le studio aujourd'hui. Alors, je dis quasi parce que nous n'aurons pas d'invité en chair et en os, ce sont encore des invités en boîte.
Exactement. Ils sont bien cachés dans les boîtes, mais ils sont là quand même avec leur voix et puis avec leur présence. On s'adapte. De toute façon, on n'a pas le choix.
Alors justement, au sommaire de cette émission, nous parlerons Tangram en période de confinement et en période de juste déconfinement.
Oui, nous avons été tendre notre micro à Julien Bourguignon, qui est le directeur délégué à la programmation scène nationale au Tangram. Qu'il nous explique un échange sur, en période de deuxième vague de confinement, qu'est-ce qui se passe pour la culture et pour la scène vivante notamment.
Nous échangerons également avec Chloé Giraud.
De la compagnie Actée, justement. Ils étaient présents il y a quelques jours sur le plateau du Théâtre Legendre pour travailler autour de leur création Attention.
C'est le titre. Hein.
Oui, c'était pas Cécile qui nous mettait en garde.
C'est le titre.
Nous aurons bien entendu un agenda de dates. Pour le coup, il va être plutôt exhaustif.
Un agenda de ouf, parce qu'il se passe tellement de trucs en décembre.
Mais on peut pas vous dire le mal qu'on a eu à faire des choix.
Mais on aura quand même relevé quelques dates qui permettront de vous donner envie.
De se rassembler.
Ouais.
Non, pas de mauvais esprit.
D'être ensemble.
Non, mais il y aura quand même quelques dates à proposer.
Bien entendu.
Nous terminerons cette émission avec un extrait de film que nous gardons encore secret. Voilà, c'est ça, c'est suspense. Dans des grandes chaînes, c'est des scoops qui vous donnent à la fin pour que vous restiez.
On est un peu dissipés ce matin, je trouve.
On retrouve le studio.
C'est la joie de retrouver le studio. Du coup, on sent que ça part un peu dans tous les sens.
Mais c'est très bien. Mais tout de suite, sans plus attendre, nous avons une autre de nos traditions. C'est un extrait sonore sur lequel nous reviendrons dans un instant.
On peut courir aussi. Ça
va, Zina. Moi, je suis de Netreville et je suis fière de mon quartier, Netreville pour toujours. Et Netreville, c'est pas un quartier, hein, c'est à peu près une famille. Hein. Moi, je le prends pas comme un quartier, une famille. Moi, mon quartier, c'est tout. Hein. Je connais tout le monde, on se connaît tous plus ou moins. On a tous grandi ensemble, on a partagé le collège ensemble, l'école primaire, certains le lycée. On a tous fréquenté la maison de quartier Jeune Cité. Tous nos souvenirs, ils sont à peu près regroupés entre habitants vraiment de Netreville. Ouais.
Ah bah, la vie associative, elle a évolué. En fait, il y a eu une sorte de big bang avec l'arrivée des entreprises, avec la fameuse loi des usines à 100 km de Paris pour désenclaver Paris. C'est les années 65 même. Et à un moment donné, sur toute le plateau de Netreville, des constructions se sont faites pour alimenter les usines qui étaient Philips, Coprim, Klaxon, Francani, Solex et bien d'autres. Donc la vie industrielle a développé des familles qui sont venues, et les familles, il y avait des enfants, des jeunes. Et puis, à un moment donné, il a bien fallu s'occuper de tout ce monde-là, parce que c'était pas facile, il n'y avait pas de loisirs.
Alors, j'y sais, on entend parler de Netreville, évidemment, de famille, de quartier, de lieu de vie et d'échange. On va prendre un peu le temps aujourd'hui de revenir sur ce pad, parce que c'est une longue histoire.
Tout à fait. Cet enregistrement est extrait d'un montage. Ah oui, alors d'habitude, on envoie du son brut. Vous savez, on ne monte pas normalement le son. On en prend un moment, un début, une fin, et puis on vous l'envoie comme ça dans l'émission. Le but du jeu étant de s'imaginer où nous sommes. Là, c'est un son monté, très clairement. Il est monté et extrait de ce que nous faisons avec la radio, notamment dans le quartier de Netreville, pour ce qui concerne l'enregistrement d'aujourd'hui, où nous allons installer notre studio. C'est ce que nous appelons les tables de chantier. Nous installons notre studio sur la place publique, et puis les gens ne nous attendent pas. Nous avons 2-3 rabatteurs qui vont rencontrer les gens qui passent justement par là par hasard, et nous les recevons au micro pour échanger sur leur vie dans le quartier, comment ils vivent les choses, comment ils les ressentent, leurs souvenirs. Enfin voilà, il y a tout un panel de questions et de discussions. Ce sont des discussions à brûle pour point, en fait, que nous avons avec les habitants. C'est eux qui nous guident dans notre questionnement, ce qui est important aussi, d'aller chercher de la parole d'habitants. Oui, mais qu'ont-ils envie de raconter? Au début, ils pensent qu'ils n'ont rien à raconter, et puis finalement, ils ont tellement de choses à partager. Notre boulot à nous, c'est juste d'orienter la discussion pour avancer dans l'échange et pas rester au point mort comme ça pourrait arriver si on n'aidait pas. Ça rentre dans le cadre d'un grand projet qui s'appelle Mémoire de quartier, qui se passe sur Netreville. Alors sur Netreville, actuellement, il y a le renouvellement urbain qui est en train d'œuvrer. Alors ce renouvellement urbain, il passe par le bâti. Il y a des tours qui vont tomber, enfin des immeubles qui vont tomber. Il y a des constructions nouvelles qui vont être mises en place. On peut le voir déjà avec la place des Peupliers, du centre commercial de Netreville, qui a fait Peau Neuve. C'est sur 3 ans que ça va se passer, ces travaux. Puis sûrement que ça continuera encore un petit peu après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, la Madeleine avait fait Peau Neuve aussi. C'était dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle le renouvellement urbain également. Maintenant, c'est à Netreville de se renouveler. Et donc, il y a cette partie travaux, cette partie bâtie. Mais au XXIe siècle, on considère plus qu'on fait un renouvellement urbain juste en mettant de nouvelles constructions et en faisant tomber les trous vétustes ou en faisant de la rénovation. On considère que les habitants font partie de ce renouvellement urbain. Et actuellement, nous sommes sur Netreville, sur une phase de collectage de paroles, de souvenirs, de mémoires. C'est ce qu'on entendait là dans ce tout petit extrait, parce qu'en fait, le montage complet fait quasi une dizaine de minutes. Mais j'y reviens dans un instant. Mais en fait, voilà, c'est aujourd'hui, on intègre les habitants à toutes ces questions-là. C'est pas le tout de faire de beaux bâtiments. Ils ont essayé ça dans les années 70, dans les années 2000. Enfin bon, il y a eu tout un choses qu'ont été faites. Et puis finalement, les habitants se sentaient étrangers à leur quartier une fois que le renouvellement était terminé. Aujourd'hui, on conçoit les choses un petit peu différemment. Et Principe Actif, et pas seulement, mais Principe Actif a été également sollicité sur ce dispositif pour collecter la parole de ses habitants. Alors c'est juste génial, ça fait un an que nous sommes dessus. Alors pas tous les jours, bien sûr, mais ça fait un an que nous sommes dessus. Et nous collectons de la parole depuis un an, de la parole d'enfants, d'anciens du du quartier, de la population active, de vraiment tout le monde. Il n'y a aucune limite à ce collectage.
Et à différents endroits du quartier.
Ouais, tout à fait. Hein.
Et juste pour orienter nos auditeurs sur Netreville, c'est combien d'habitants d'Evreux à peu près je pose une colle. Non, mais c'est un vrai quartier aussi, avec de la population, en fait.
Tout à fait.
Il n'y en a pas, mais voilà, c'est...
Il y a énormément d'habitants. Alors, Netreville, ça s'étend quand même pas mal. Oui. Hein. Ça va du bord de la N13, là, sur le bois des communes, sur les pistes même. Jusqu'au bout, là, les pistes. Jusqu'à
Gravigny,
centre-ville,
hein.
Quasiment Gravigny.
Ouais, avec la Censurière et tout.
Voilà, la Censurière également. Ouais. Donc, c'est assez étendu. Je voudrais pas dire de bêtises, parce que j'en dirais si je donnais un chiffre de population, et ce serait bien ballot, mais c'est... on doit pas être loin des 10 000 habitants, quelque chose comme ça.
Hein. On a quand même trois écoles élémentaires, quasiment autant d'écoles maternelles, je crois. Il y a quand même un collège, un lycée.
M'obligez pas à ressortir les documents du diagnostic social, hein, parce que nous les
avons. Il y a effectivement, c'est un quartier qui regroupe énormément de monde, des habitations très différentes, avec des zones pavillonnaires, avec des zones d'immeubles, je crois que...
6370 habitants.
Bon, j'y sais, je pense que t'étais un peu loin. Diagnostic, pas tant que ça.
Ouais, alors je regarde la source, l'année de la source qui veut pas s'ouvrir.
C'est surtout comme d'autres quartiers, mais ce sont des quartiers qui ont une histoire, et une histoire collective. Et ça, nous en rendons compte quand nous avons été collectés, et on l'entend tout au début de cet extrait-là, la dame qui dit, c'est presque comme une famille, en fait, les gens se connaissent. Ce n'est pas un quartier de passage, c'est un quartier où les gens s'installent, les gens vivent sur la durée, et régulièrement dans nos échanges, nous sommes rendus compte qu'il y avait plein de gens qui étaient nés à Netreville et qui y vivent encore, et qui ont des enfants à Netreville également. Donc ça veut dire que ça s'inscrit quand même dans la durée. Netreville n'est pas un quartier de passage comme d'autres existent. Celui-ci, c'est un quartier où on s'installe et on vit.
Avec une vie associative très forte, quand même. Alors, avec certaines associations quand même emblématiques.
Alors il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire.
Avec une histoire, bien sûr, évidemment, mais...
Donc, j'invite les gens à se rapprocher après des autres canaux de diffusion, parce que l'extrait que vous avez entendu, c'est extrait d'un travail qui a été mené avec Principe Actif et le photographe Frédéric Grimaud. En fait, ce que vous avez entendu là, c'est une petite œuvre multimédia d'une dizaine de minutes qui retrace beaucoup de choses, beaucoup de paroles d'habitants. Il n'y a d'ailleurs que des paroles d'habitants dans cet enregistrement. Et cette petite œuvre multimédia va être très prochainement disponible sur Internet. Et on vous invite très très fortement à la découvrir, à la regarder vraiment, parce qu'on se fait prendre au jeu. Alors Cécile qui l'a vu avant que ça sorte.
Ouais, moi du coup j'ai eu. Non, c'est effectivement un très beau moment, parce que c'est de la parole des habitants, c'est le regard des habitants sur leur quartier, qui est plein de tendresse, plein d'émotions, plein de vie aussi, parce qu'il y a une énergie qui se dégage de ce reportage, une vraie énergie de vie. C'est un regard très très positif qui mérite d'être diffusé.
Et relayé.
Ouais.
On avait eu quelques images aussi, je me souviens, de Frédéric Grimaud sur ce projet pendant l'été. Il y avait eu tout accompagné par les portraits, photos des habitants en noir et blanc, qui montraient déjà, je trouvais, une dynamique dans les corps, les visages, les expressions. Voilà, il y avait une vraie adhésion en plus devant l'appareil.
Et puis c'est joyeux.
C'est joyeux.
Voilà. Et puis on parle souvent de démarches artistiques dans cette émission. On parle aussi, nous, à Principe Actif, de démarche journalistique quand on vient chercher de l'info. Et ben là, on est vraiment sur une production intermédiaire qui lie les deux, en fait. Il y a une dimension artistique dans ce qui est proposé sur cette petite œuvre multimédia, mais il y a aussi beaucoup d'infos qu'on trouve dedans. Vous pourrez la retrouver très très prochainement sur la chaîne YouTube de la L2E. La L2E, c'est l'association porteuse du centre social de Netreville. Vous pourrez trouver cette vidéo dans très peu de temps sur la chaîne YouTube de la L2E. puis entre deux, vous pourrez en voir des extraits, parce que Maxime du service jeunesse a proposé une petite émission de Web TV il y a une semaine. Voilà, donc en tout cas, c'était quelque chose sur lequel on souhaitait insister un petit peu, pas parce que c'est nous qui avons travaillé aussi dessus, mais parce que c'est vraiment de l'âme de quartier, et ça fait toujours du bien.
Voilà.
Ouais. On part en musique.
On part
avec le premier extrait. Alors
oui,
Nathalie,
oui.
C'était lequel
on va en mettre du coup Billy Eilish.
Bah, allons-y.
Alors je l'explique avant puis on le lance.
Ouais, allez, ça. On a
allez, on fait dans ce sens-là. En fait, c'est pas sans savoir qu'on a eu que le monde a eu de nouvelles élections américaines avec un nouveau président. Et du coup, j'ai un petit peu traîné sur les internets pour trouver un peu la musique un peu qui se faisait en ce moment aux États-Unis, un peu aussi en direction des populations très jeunes aussi aux États-Unis d'Amérique. Et je suis tombée sur Billie Eilish, que je trouve fort intéressante parce qu'elle a une palette éclectique d'œuvres, elle peut passer du rap à du chant. Voilà, donc j'avais envie de vous faire partager cette découverte avec notamment son titre qui s'intitule My Future. I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? I've changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I Donc c'était bien Billie Eilish avec My Future.
On poursuit dans nos rencontres et on l'avait dit en ouverture d'émission, c'est le programmateur du Tangram que nous retrouvons à nos micros de Nathalie et Cécile en fait.
C'est ça, on a donc pris un petit temps avec Julien Bourguignon, donc qui est effectivement le directeur délégué à la programmation scène nationale au Tangram. Pour parler bah, de ce qu'impliquait ce second confinement, voilà, qui est arrivé de manière un peu brutale, ce que ça impliquait. Et puis, bah, puis on a parlé aussi un petit peu, et après, qu'est-ce qui se passe?
Bonjour, Julien Bourguignon. Vous Bonjour. Êtes directeur délégué à la programmation scène nationale au Tangram.
Oui.
Merci de nous recevoir et de répondre à nos quelques questions.
Oui.
Puisque dans notre émission Scène de vie, vite scène, nous allons parler, eh bien, de l'actualité quand même, qui est pour les salles de spectacle et les théâtres, le deuxième confinement. Voilà. Donc, the coming back après le premier et la deuxième vague.
Ouais.
Alors, et on, voilà, on voulait vous interroger sur comment ça se passe pour le Tangram et notamment sur cette deuxième vague qui comprend quand même une activité en direction des artistes. Hein. Ils ont été beaucoup oubliés, j'ai l'impression, sur la première vague de confinement. Mais là, les théâtres sont ouverts pour les artistes. Vous pouvez nous expliquer, nous présenter pour le Tangram comment ça se passe et avec qui, avec quelle résidence d'artiste vous travaillez.
Alors, par rapport aux artistes, en fait, déjà dès le premier confinement, la politique du Tangram, ça avait été d'accompagner les artistes en dédommageant notamment les compagnies qu'on aurait dû accueillir. Donc, dès le premier confinement, par rapport au soutien de l'intermittence et de l'économie du spectacle vivant, les scènes nationales, globalement, ont indemnisé toutes les compagnies qui devaient être programmées. Donc, on a, pour le premier comme pour le deuxième confinement, annulé et reporté certains spectacles. Donc il y a des spectacles que vous n'avez pas pu voir, que les spectateurs n'ont pas pu voir pendant le premier et pendant le deuxième confinement, qui seront reprogrammés la saison prochaine. Donc voilà, donc déjà sur la question de la diffusion des œuvres, on a veillé à pouvoir payer les artistes et à assurer une continuité artistique, c'est-à-dire de promettre aux hébroïciens les spectacles qu'ils auraient dû voir. Et par ailleurs, on s'est dit, faisons de toutes ces contraintes un avantage, c'est-à-dire si on ne peut pas avoir du public, au moins ayons les artistes au plateau, parce que finalement, deux confinements coup sur coup, ça compromet aussi l'acte de création, parce qu'un spectacle, pour se créer, c'est parfois un an et demi, deux ans. Donc bah, quand vous avez plus de six mois d'interruption, ça veut dire pour les artistes, ils ont besoin de retrouver du temps de plateau et c'est ce qu'on a décidé de proposer. Donc globalement, suite à l'annonce du deuxième confinement, donc qui s'est fait de manière un peu rapide et précipitée, voire assez brutale, on s'est dit bon bah à ce moment-là, ouvrons nos plateaux parce qu'on a l'avantage ici d'avoir énormément de plateaux puisqu'on a beaucoup d'activités aussi bien en spectacle vivant qu'en musique actuelle.
On peut peut-être rappeler d'ailleurs combien de plateaux pour le Tangram.
Alors au Tangram, vous avez le grand plateau du Cadran, premier plateau, le théâtre Legendre qui a réouvert l'année dernière, deuxième plateau, une salle de répétition aussi au théâtre Legendre. Vous avez aussi le Cube avec deux plateaux, enfin deux salles, une grande salle et le club. Et puis il y a aussi le plateau de Louviers. Donc ça fait au total cinq plateaux. Donc l'idée c'était de se dire bah on a cet avantage là, il faut s'en servir et on a contacté des compagnies régionales pour leur proposer de venir travailler chez nous leur future création. Voilà, donc en tout, c'est 7 résidences qui ont lieu durant novembre et décembre. Donc c'est plus de, ne serait-ce que pour la scène nationale, c'est à peu près 400 heures, je crois, de formation, de résidences qui sont proposées et qui permettent aux artistes bah, de retrouver un peu de sérénité puisqu'ils sont quand même beaucoup malmenés par tous ces stop and go, hein, comme l'ensemble de la population française. À ceci près que pour eux, bah, créer un spectacle, ça demande énormément d'anticipation, énormément de planification. Donc c'est une manière de rattraper ce temps perdu et de faire en sorte que les spectacles puissent voir le jour.
Et du coup, ça s'est passé comment? C'est vous qui êtes allé au-devant des compagnies? Les compagnies sont aussi venues? Ça a été, le choix était difficile à faire ou ça s'est finalement très vite fait, très vite
Au départ, c'était des compagnies avec qui on était déjà en discussion pour des questions de programmation à venir. Mm-hmm. Donc on a été en lien assez vite avec ces compagnies-là. Il s'avère que on a pu, parce que avoir une compagnie en résidence, c'est pas juste mettre à disposition un plateau. En tout cas,
justement, oui.
Là, l'idée, c'était aussi parce qu'ils sont dans une situation extrêmement précaire, c'était de pouvoir les rémunérer. Et donc, nous, on a pu à la fois mettre en place les plateaux et assurer les salaires, ce qui, du coup, a apporté une bulle d'air énorme pour ces compagnies-là. Donc, au départ, on était plutôt en discussion avec des compagnies qu'on avait identifiées. Bon, là, il s'avère qu'on a un petit effet de poudre, c'est-à-dire que, bah, voilà, les gens ont appris qu'il y avait ce dispositif de résidence. Donc là, on a pas mal de demandes qui arrivent.
Vous avez suscité la demande. demandes.
Ouais, il y a eu pas mal de demandes là récemment. Donc après, on fait aussi à la hauteur de nos moyens, parce que il y a évidemment un modèle économique aussi à respecter au Tangram, modèle économique complexe, puisque parallèlement, on a aussi perdu beaucoup d'argent avec tout le volet économique de la structure, puisqu'on a aussi une activité de location d'espace, et on a perdu plus de 300 000 euros quand même dans cette affaire. Donc il a fallu veiller à un équilibre budgétaire constant, tout en dégageant du disponible artistique pour ces compagnies.
J'imagine qu'une gestion de crise, enfin crise sanitaire pour un théâtre, en effet, c'est extrêmement délicat. Enfin, le public ne se rend pas compte peut-être de toutes les enjeux, les tenants, les aboutissants administratifs, mais j'imagine, ne serait-ce qu'un report de spectacle, c'est pas forcément aisé, c'est pas comme le disait Cécile en micro coupé, c'est pas forcément évident, on peut pas dans la semaine ou dans le mois d'après reprogrammer. C'est
non, autant
de ce que vous voulez un petit peu, sans rentrer dans le détail qui est complexe, mais donner un petit peu ce fonctionnement là une compagnie, ça a aussi des dates prévues avec d'autres théâtres et...
C'est ça. Souvent, quand on est spectateur, on pense qu'aller au théâtre ou aller à un festival, c'est quelque chose d'immédiat. C'est une démarche qui peut être assez facile, en tout cas, à mettre en place. Pour ce qui est de la production, c'est généralement, en moyenne, c'est minimum 2 ans d'anticipation. Entre le moment où l'artiste va travailler à la conception de son spectacle et le moment où il arrive face au public, il se passe en moyenne, à minima, 2 ans. Parfois, c'est 3, parfois, c'est 4. Donc quand vous annulez toute une série de représentations, en fait vous avez tout un calendrier qui est chamboulé, parce que l'artiste ne va pas passer que chez nous, il va passer sur d'autres plateaux. L'avantage de la scène nationale du Tangram, c'est qu'on a les moyens aussi d'accueillir des grands artistes, parfois internationaux. Donc vous vous retrouvez avec des logiques de tournée à l'international, et même pour les compagnies normandes, nous on pense qu'elles sont à côté de nous, mais ce sont aussi des compagnies qui ont des tournées nationales voire internationales, et donc la même logique s'applique. Donc c'est pas juste se dire ok, on le décale d'un mois et c'est bon, c'est réglé. Non, vous devez vous inscrire dans un écosystème extrêmement complexe qui nécessite énormément de discussions avec les compagnies, avec les structures culturelles partenaires, pour essayer de reconstruire une tournée alors que parfois elle a été annulé une fois, voire 2 fois, puisqu'il y a eu 2 confinements.
Oui, puis il y a aussi une logique, justement, je rebondis un peu sur le terme d'écosystème, c'est-à-dire que une tournée, elle se conçoit pas non plus pareil en disant ok, bah on joue là tel jour, on va repartir dans le nord un autre jour, et puis on va partir, je dis n'importe quoi, en Italie ce jour-là. Le principe aussi, c'est d'essayer de plus en plus, quand les tournées sont conçues, je crois, c'est d'essayer d'harmoniser
De rationaliser les coûts.
Voilà.
C'est de veiller à la pertinence de la dépense de l'argent public, puisque c'est aussi des contributions que nous percevons. Pour vous donner un exemple concret, on va accueillir en janvier prochain Hellénite de Ripides Lascaridis. Donc c'est un projet international, c'est une figure montante au niveau européen voire mondial. Ce spectacle doit passer au Théâtre de la Ville à Paris, il va aller à Mulhouse, il viendra chez nous, donc il y a peu de lieux, et donc en fait vous devez penser avec ces lieux partenaires comment les artistes vont se rendre sur les plateaux. Et là, exemple très concret, on a eu l'administratrice de production. Afin de mutualiser les coûts, on avait prévu un truc tout con, mais ne serait-ce que l'hébergement des danseurs, où on avait prévu que chacun y serait dans des chambres twin, c'est-à-dire qu'ils pourraient se partager des chambres. Mine de rien, vous faites des économies.
Mais
aujourd'hui, c'est plus possible.
Oui.
Vous devez les mettre chacun dans des chambres individuelles. Ce sont des artistes qui sont extrêmement demandés et qui tournent à l'international, donc ils doivent minimiser les transports publics. Donc ça veut dire peut-être affréter une navette entre Paris-Évreux ou Évreux-Mulhouse, et donc c'est des coûts supplétifs. Donc il faut supplémentaire, pardon. Donc c'est toute cette économie-là qui doit être revue. Donc en fait, c'est vraiment de la dentelle, en fait. Donc c'est quelque chose qui nécessite de l'anticipation, énormément de discussions, qui nécessite des plans budgétaires quotidiens, pour pas dire 2 fois par jour. Donc voilà, donc c'est vraiment complexe. C'est vraiment quelque chose de à la fois très riche. Donc ce qui est assez agréable, c'est de voir que finalement, on arrive à trouver des solutions par le haut. Parce que ce qu'on vérifie aussi, malgré cette période extrêmement difficile, c'est que tout le monde a envie que ça joue, tout le monde a envie que le spectacle advienne, donc on trouve des solutions, mais effectivement ça demande beaucoup beaucoup de travail.
c'est pas simple. Voilà. Et je me dis en même temps, si le public n'a pas connaissance de ça, ça veut dire que, et c'est notre rôle à nous, structure, effectivement, ils n'ont pas à voir ils n'ont pas à voir l'envers du décor. Et tant mieux si quand ils arrivent dans nos salles, ils profitent pleinement du spectacle. Mais c'est vrai que c'était, je pense, c'est important de revenir là-dessus, et c'est aussi important de signaler tout ce fonctionnement en fait du monde de la culture qui effectivement est parfois et c'est normal, invisible. Voilà. Justement, il y a cette envie qui est présente, les envies des équipes, des équipes artistiques. On sent aussi qu'il y a l'envie du public de retourner dans les salles. Est-ce que vous auriez un petit mot, Julien, pour rassurer aussi sur l'avenir du Tangram, parce qu'on se pose, je pense, nombreux de nos auditeurs se posent aussi la question de comment on va se retrouver dans ces salles. Est-ce qu'il y a eu des aides? Comment on est accompagné en tant que structure culturelle dans ces moments compliqués qu'ont été ces confinements?
Déjà, on a été, et ça il faut quand même le souligner, on a été très bien accompagné par les tutelles, par les contributeurs financiers de l'EPCC. Donc ce soutien-là aussi, ça permet aussi de garder un peu de sérénité dans cette période extrêmement sombre. Et après, sur l'accueil des publics, en fait, on a... comme vous le savez, on a déjà mis en place un protocole d'accueil renforcé sur l'accueil des publics. Je tiens à rappeler, comme beaucoup le savent déjà, mais aucun cluster n'est jamais survenu dans un lieu culturel, justement parce que on a aussi la connaissance de nos salles et de nos plateaux, donc on peut anticiper le placement des publics. Ces protocoles d'accueil donc sont parfois pas toujours agréables pour les publics, parce que je pense notamment au Théâtre Le Gendre où on avait mis en place la numérotation. Celle-ci a dû être annulé, pour le moment en tout cas suspendu pour des questions sanitaires. Mais moi, ce que j'ai trouvé extrêmement encourageant après le premier confinement, quand on a réouvert en septembre, c'était à la fois l'adhésion du public qui était présent. Je me souviens même des journées du matrimoine où après les lectures, le public restait dans la salle alors que c'était fini, parce que je pense que les gens ont besoin aussi de se sentir dans ces lieux de culture. C'est quand même un poumon, c'est une respiration, une bulle d'air dans cette époque qui est parfois assez tourmentée. Donc on aura de toute manière ce protocole d'accueil qui est toujours d'actualité. Et puis, vu que là on est soumis aussi à un couvre-feu, on a repensé les horaires d'accueil pour que les gens puissent venir sereinement au spectacle et repartir sereinement. D'ailleurs, on communiquera sur l'horaire de fin des spectacles pour que les gens aient bien l'information de à quelle heure ça termine. Il faudra juste qu'ils pensent à bien garder les billets si jamais il y avait un contrôle, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qu'on a anticipé. Les horaires sont calés en fonction du couvre-feu qui aura lieu à partir du 15 décembre. Donc les gens peuvent venir en toute sérénité, ils auront le temps de rentrer, de profiter du spectacle et d'être préservés de cette horrible Covid.
Alors ce qu'on peut dire à nos auditeurs aujourd'hui, c'est après le 15 décembre, le Tangram retrouve sa programmation initiale, programmée, avec les spectacles ou les concerts qui étaient prévus, à des horaires modifiés pour permettre la rentrée chez soi avec le couvre-feu, avec en respectant l'horaire du couvre-feu. Et sur décembre et sur janvier, pareil. C'est-à-dire qu'on garde la même programmation. Vous gardez la même programmation à l'identique.
Oui, on garde la même programmation. La seule chose pour l'instant qu'on a dû suspendre, c'était les représentations jeunes publics, notamment parce que il y avait la question des sorties scolaires. Et là, il y a une autre réglementation qui est celle des collèges, des lycées, des écoles. Donc, évidemment, l'idée était d'éviter de mettre en présence des classes de différents établissements pour des questions sanitaires. Donc pour l'instant, nous n'avons pas pu honorer les représentations de Verte en décembre, mais qui avaient lieu normalement à Louviers, mais qui seront reprogrammées l'année prochaine. Donc Verte aura bien lieu chez nous. Et pour le reste, les représentations tout public sont maintenues sans problème, avec donc un horaire avancé, notamment le poème harmonique qui viendra jouer Il Viaggio le 18 décembre. Le spectacle ne sera plus à 20h, mais à 19h.
Très bien. Ça donne vraiment des petites lanternes bien précises pour nos auditeurs qui nous disent allez, c'est reparti et on se retrouve et on peut reprendre la programmation, le catalogue ou la plaquette en disant voilà, on y retourne.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que Qu'est-ce que, si on prend un petit peu de recul là, sur tout ce qu'on a vécu depuis le mois de mars quand même, parce que voilà, c'était une année vraiment très particulière. Qu'est-ce que vous retenez, Julien, de ce confinement? Alors pour les structures évidemment, hein, pour les structures culturelles, est-ce qu'il y a forcément eu des inconvénients, ça on s'en doute, mais est-ce qu'il y a eu des avantages? Et puis plus globalement, on a beaucoup parlé du monde d'après, surtout après le premier confinement. Comment vous l'envisagez, ce monde d'après?
Alors, je ne sais pas si on peut parler davantage par rapport à ce qu'on vient de traverser. En tout cas, ça, je pense que ce que j'ai pu vérifier, en tout cas, et ce qui m'a plutôt rassuré, c'est que on était face à un événement sans précédent, je pense, dans l'histoire humaine, en tout cas contemporaine. Ce qui m'a plutôt rassuré, c'est d'abord la solidarité. Au niveau, je dirais, global, général, il y a eu des vrais élans de solidarité entre les personnes, et ça, il faut le souligner, même parfois quand la puissance publique était dépassée parce que voilà, c'était une situation extrêmement complexe. Il y a eu même des réseaux informels de solidarité qui se sont spontanément créés et qui ont permis que voilà, qu'on puisse traverser cette crise. Côté, je dirais, scène nationale, moi, ça a été la souplesse des artistes, l'envie des artistes de retrouver les publics et aussi l'envie des publics de retrouver les artistes. Moi, j'avais peur que, vu la peur ambiante, que la culture soit effacée. Mmh. Et en fait, dès le mois de septembre, quand on a réouvert, j'ai vu l'engouement, l'envie irrépressible des uns et des autres à se retrouver ensemble. Et ça m'a plutôt rassuré. Pour ce qui est du monde d'après, pour moi, il est beaucoup trop tôt. Je pense qu'on est sur un effet de communication, en fait, lié aux médias. On veut penser le monde d'après, mais je pense que le monde ne se fait pas dans un délai aussi court. Je pense qu'il y aura effectivement un monde d'après, c'est-à-dire que pour être pas mal en proximité avec des artistes, je vois bien que ça décante dans l'esprit des artistes, ça décante même dans toute la pensée contemporaine, que ce soit philosophique, sociologique, politique, mais je pense qu'il faut sortir de l'immédiateté liée notamment à cette société toujours plus connectée qui fait qu'il faudrait qu'on ait des réponses immédiates. Je pense que ça demande de la décantation, donc je pense qu'il y aura un monde d'après. D'ailleurs, le festival Anthropocène qu'on fera en avril prochain, c'est aussi ça, hein, c'est réfléchir à ce monde de demain, mais il faut peut-être se dire que ça nécessite du temps, ça nécessite de la discussion, ça nécessite de la rencontre, et qu'on n'est pas obligé de pondre le monde d'après en 10 jours, quoi.
Ou est-ce que vous pensez que finalement ce confinement et ce qui est arrivé, ça va être oublié et puis vous laissez quand même des traces, mais imperceptibles, ou
je pense
comme
que...
si on va effacer pour oublier et puis pour...
Moi, je pense pas qu'on puisse l'oublier. D'ailleurs, on ne doit pas l'oublier. Il faudra après réfléchir aux causes de ce Covid. Est-ce que les virus existent et voilà, ça pouvait nous arriver, ça nous est arrivé. La vraie question, c'est est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a pu déclencher cette pandémie parce que la déforestation, la proximité d'espèces animales qui n'auraient pas dû être en contact. Enfin, il y a toute cette réflexion de fond aussi qu'il faudra se poser à un moment donné. Donc je pense qu'on ne pourra pas s'en faire l'économie. Je ne pense pas qu'on pourra effacer cette période-là, notamment parce que, encore une fois, ça s'est imprimé dans l'inconscient collectif, et donc ça va forcément ressurgir. Il faut juste que ça ressurgisse de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une forme de réaction. Là, il y a quand même on a pu voir des dérives, parfois liberticides, mais tout ça, je pense que ça s'établit dans la peur, parce que là on est dans une forme de sidération, de peur, donc on a des réactions, presque des réflexes instinctifs, et qu'il faut dépasser ça. Il faut dépasser sa peur de l'autre, sa peur de penser que le tout sécurité sera la solution. À titre personnel, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut être au contraire vigilant. Donc je pense pas qu'on puisse effacer ce qui nous est arrivé. Par contre, je pense qu'on peut en faire un vrai socle de réflexion pour les années qui viennent, pour essayer de penser à un modèle de société déjà beaucoup plus solidaire, Je dis pas qu'il n'y a pas de solidarité, mais je pense que il faut renforcer cette solidarité. Il faut peut-être aussi déplacer le curseur, c'est-à-dire encore une fois la notion d'immédiateté, de productivité importante hein, à notre survie. Il s'agit pas de dire qu'il n'en faut pas, mais peut-être qu'il faut la raisonner. Et je pense que le deuxième confinement a été vécu de manière très complexe pour les gens, parce qu'on a demandé un effort collectif pour le bien commun, et en même temps on a voulu continuer à maintenir l'activité économique qui repose sur un système capitaliste, qui repose sur une perception individuelle. Donc on vous a demandé deux choses contradictoires, c'est-à-dire d'œuvrer pour la communauté, sauf que nous ne sommes pas communistes, et en même temps de sauvegarder le capitalisme. Et je pense que cette injonction contraire a fait qu'à un moment donné les gens étaient tiraillés entre leur propre survie et le bien commun. Et donc face à cette espèce de béance, on s'est retrouvé un peu avec parfois des basses passions, des réflexes de survie qui étaient pas forcément pour le mieux. Voilà. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir essayer de reconjuguer. Et je pense que pour le coup, l'art et la culture a au moins cet apport là, c'est de mettre de la perspective, mettre de la distance. J'entends beaucoup aussi aujourd'hui les gens qui disent on a besoin de rigoler, on a besoin de s'amuser, on a besoin de divertissement. Certes, c'est important. C'est important de s'amuser, c'est important. Mais je pense surtout aujourd'hui qu'il est important aussi de réfléchir. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire l'un à défaut de l'autre. Je pense qu'il faut savoir faire les deux, et ça fait partie des missions d'une scène nationale. On ne peut pas se faire l'économie de la réflexion aujourd'hui sur ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire à la fois sur cette pandémie, à la fois sur ce qui est arrivé récemment avec Samuel Paty, à la fois sur ces lois qui sortent en ce moment, qui sont extrêmement à titre personnel je trouve problématiques. Voilà, tout notre écosystème est lié. Il y a des endroits de fragilité. Je pense que le théâtre n'est pas la solution ultime toutes ces problématiques, mais elle permet de prendre un peu de distance, de prendre un peu de réflexion et de reprendre le contrôle de notre temps.
Julien Bourguignon, merci beaucoup
merci à vous
pour cet échange, et puis on se retrouve très bientôt, le 18 décembre au Tangramme à Évreux avec Il Viaggio, et voilà, à très bientôt.
Merci.
We want the dip, we want the high, in every second of the life. We're just the best, just right now, that's the way we learn so far. Saying top of the cooking, doesn't work with heavy words, flirting with that smile in your best friend's skin. Saying top of the cooking, doesn't work with heavy words, flirting with that smile in your best friend's skin. Oh. Sometimes it feels like the sun running through your fingers, following the tick-tock of the clock, and demons shaking your heart on the beat of your highly pressured blood. And a glass of full body wine is suddenly blurring the horizon, making the strong idea.
that smile in your best friend's can.
Et nous écoutions Mel Sparrow avec Next Born Generation. C'est une musicienne, chanteuse, auteure, interprète tourangène de Tours. Voilà, j'aime bien son adresse directe, c'est carré, ça envoie, efficace, on va dire, ouais.
Eh bien, écoutez. C'est parfait. Nous poursuivons et nous commençons à bousculer un peu tout ça parce que même si on est prêt, ben on arrive quand même à prendre du retard. Nous poursuivons et ça va faire écho à ce que disait Julien sur le premier échange que nous venons d'écouter. Nous avons été à la rencontre de Chloé
Giraud.
Excusez-moi, Chloé Giraud de la compagnie Actée. Elle est co-metteuse en scène avec Arnaud Toalic sur la pièce Attention, nous avons été à la rencontre. Et Chloé commence à nous parler un petit peu de cette rencontre avec Arnaud.
Avec Arnaud, on s'est rencontrés en fait lors d'un stage mené par les Chantiers Nomades. Proposé par les Chantiers Nomades et mené par Lionel Gonzalez et Jeanne Candel. Et le stage était intitulé « Le théâtre ou la vie ». Et donc on a tous les deux postulé à ce stage et après on était une équipe de 15 artistes à faire ce stage. Et le projet de ce stage, c'était de travailler en fait à partir de textes existants, donc de, en l'occurrence des textes non théâtraux. Là, c'était des nouvelles de Tchekhov. De travailler en fait sur un processus d'étude dramaturgique des œuvres dans le but de s'en emparer ensuite au plateau en improvisation. Donc un processus en fait vraiment d'appropriation par l'acteur des schémas dramatiques, des ressorts de jeu en fait dans les textes qui permettent ensuite de lancer des séquences d'improvisation avec les partenaires de jeu quoi. Et donc ce stage, il a été vraiment, enfin c'était un long stage, c'était 3 semaines. Et ça a été assez, je pense, marquant pour l'un comme pour l'autre sur une nouvelle manière de travailler et notamment une rencontre avec un processus de travail qu'on connaissait pas, qui est vraiment le fait de mettre en tant qu'acteur sa pensée en action. Comment est-ce qu'en fait une pensée peut être source de jeu et peut faire bondir l'autre en face, quoi. Comment, quand moi je développe une pensée, par exemple, vous en face, ça vous donne envie d'agir ou de rebondir ou de, et voilà. Et c'est simplement c'est un training, quoi. Training d'activer sa pensée.
Et là, au bout d'un moment, entre Arnaud et toi, il y a quelque chose qui se passe de particulier, une entente, justement, un rebond qui se fait plus naturellement.
Ouais. Alors, on était tous les deux acteurs, en plus, à cet endroit-là du stage, parce que moi, j'ai plus une formation, d'ailleurs, de comédienne que de metteuse en scène. C'est la première fois, là, que je fais de la mise en scène. Et avec Arnaud, c'est vrai que pendant ce stage, on a eu, je pense qu'on s'est vraiment bien entendu sur, autant humainement que artistiquement, quoi. Et donc, ça nous a, voilà, en fait, on a travaillé avec plein de personnes pendant le stage, mais c'est vrai qu'à l'issue de ce stage, quand Arnaud m'a appelé et qu'il m'a dit qu'il commençait à travailler sur à partir de cette méthode-là, mais tout seul, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour venir le rejoindre, ça m'a fait plaisir, quoi. Enfin, et puis je me suis dit bon bah c'est super, quoi. Ça, on va pouvoir prolonger ce stage autrement, nous et nous en emparer. Voilà.
Et donc c'était sur Attention, la proposition était directement sur Attention.
Ouais, alors ça s'appelait pas forcément... Si, ça s'appelait... Je crois qu'il avait déjà décidé que ça s'appellerait Attention. Mais en tout cas, c'était né pour lui d'une rencontre avec, du coup, l'auteur Bernard Noël. Rencontre littéraire, hein, pas de visu. Et donc Arnaud, en fait, il cherchait à travailler sur un monologue. Et il est tombé sur le monologue du nous de Bernard Noël, en fait. Donc gros questionnement entre le jeu, enfin l'intime et le collectif, quoi, le jeu, le nous. Et en fait, ça l'a amené après vers d'autres écrits de Bernard Noël que sont le cerveau disponible, la castration mentale, l'outrage homo. Et après tout ça, c'est l'œuvre de Bernard Noël dans laquelle après on est tombé un peu tous les deux en lecture et puis en étude. Enfin, on essayait d'étudier quels étaient les arguments et comment faire de ces arguments-là, qui sont des arguments très théoriques et didactiques, et en prise avec en plus une actualité, une, Enfin, c'est des sujets sociaux, quoi. Comment faire de ces sujets de société théâtre? C'est vraiment un sacré challenge, quoi. Et donc, c'est là tout l'enjeu, quoi. En plus, en étant sur un format de seul en scène.
Sur, oui, tout à fait. Sur la mise en scène, tu abordais, Chloé, cette première mise en scène. Mm. Quand on est comédien et qu'on passe à la mise en scène, qu'est-ce que toi, tu as dû faire comme travail sur ton regard, sur la façon d'aborder les choses?
Bah, ouais, c'est assez déroutant de passer de l'autre côté, on va dire, de la création. Parce que du coup, moi, j'ai plus une formation de comédienne. Et là, c'est vraiment un regard extérieur, quoi, un regard de mise en scène. Et en fait, je sens aussi les avantages, en fait, que d'avoir eu cette formation, d'être passée par le plateau, de jouer, d'aimer jouer, en fait, les ressorts de jeu. Ça m'aide, en fait, moi, et je pense que ça nous aide avec Arnaud, à soulever des vrais ressorts de jeu pour lui au plateau. Mais c'est vrai qu'il faut, enfin, c'est ce qui est le plus délicat, c'est de se détacher de tout, comment dire, de tout ce, enfin, le regard de la mise en scène, c'est vraiment un regard neuf, un regard vierge, sans préjugés, comme le regard du premier spectateur qui tomberait sur ce spectacle. Or, le travail de l'acteur, c'est à la fois le même travail, mais décalé, quoi. C'est le travail, mais au plateau. Donc là, il y a vraiment, pour moi, un exercice qui est de l'ordre de laver le regard sans cesse, laver l'oreille, me laver de tout, tout en étant quand même dans la construction et l'écriture du spectacle, quoi, avec Arnaud. Parce qu'en plus, il n'y a pas de texte, donc on n'a pas une œuvre littéraire sur laquelle on peut se reposer, définitive, et à laquelle on fait confiance parce qu'elle a été éditée, et puis que du coup, c'est super, et que tout le monde... Enfin bon, c'est un gage de qualité, on va dire. Même si, bon, il y a des auteurs édités qui ne sont pas forcément de qualité, mais c'est notre problématique. En tout cas, là, on peut pas se fier à une œuvre existante. Donc, on ne se fie qu'à ce qu'on écrit en plus en cours de, parce qu'on est encore en plus en écriture là en ce moment.
Alors justement, comment s'organise cette création?
Bah alors, elle s'organise. On est à la recherche de tout en même temps, en parallèle. Donc, à la fois, on n'a pas de méthode parce qu'on a ni l'un ni l'autre jamais travaillé comme ça. On n'a jamais écrit. Enfin, on n'est pas des auteurs. Moi, j'ai jamais fait encore de mise en scène. Lui, il fait de la mise en scène, mais du dedans, donc c'est encore un autre poste. Enfin, voilà. L'équipe artistique, là, on vient de recevoir, enfin de recevoir, d'accueillir Olivier Valcarcel, qui est au son. Donc là, vraiment, la résidence, par exemple, ici à Évreux, pour nous, c'était pour travailler sur le son. Mais tout se fait conjointement, quoi, en parallèle. Donc on est vraiment en train d'élaborer une œuvre qui s'écrit pas à pas, quoi. Un peu à vue, quoi. On avance progressivement. Tantôt, il y a quelque chose qui avance dans la fiction, hop, ça déclenche quelque chose au niveau d'une envie de mise en scène, de jeu, de scénographie. Tout avance un peu ensemble, quoi. C'est pas une création habituelle dans le sens où timé, rythmé, la scéno sort avant le spectacle, les comédiens arrivent, ils s'installent dans le décor qui est déjà existant. Enfin, on n'est pas du tout dans ce régime-là de création, quoi. C'est tout avance conjointement, quoi, on va dire.
Ce qui permet aussi que ça puisse rester mouvant jusqu'à la diffusion.
Oui, ouais. Mais alors se pose donc ça reste en mouvement jusqu'à la première, mais se pose une question importante qui est le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même forcément arrêter des choses pour pouvoir avancer. Sinon, on reste en travail perpétuellement et c'est pas non plus l'objectif, quoi. On a quand même pour projet de présenter un spectacle dont nous on connaisse les rouages et les ressorts, et de guider le spectateur dans une intrigue malgré tout, même si il restera indéniablement une part d'improvisation et de... En fait, l'improvisation sera plus de l'ordre du choix des mots en temps réel, et donc d'une pensée qu'on voudrait rendre toujours active et vibrante et vivante, comme là quand je vous parle, je suis en travail, quoi, comme dans la vie, en fait. On cherche cet endroit-là de jeu, mais en passant par des zones balisées et des étapes de travail, enfin un canevas finalement d'improvisation que nous on connaît et qui guidera, voilà, le spectateur.
Justement, l'improvisation, c'est justement tout l'objet de l'improvisation, c'est de savoir où on va tout en prenant des chemins
de traverse,
plus ou moins éloignés. Justement, venons-en à Attention,
ouais.
le propos d'Attention. Si tu pouvais nous présenter en quelques mots. beaucoup plus même d'ailleurs.
Ouais. Bah, je pense que, alors attention, ça n'est vraiment de préoccupations qui sont au départ, sans vous mentir, celles d'Arnaud Troalic, quoi. Donc qui est au plateau et co-metteur en scène du projet. Et Arnaud, je pense qu'il a un questionnement autour de l'économie que c'est aujourd'hui l'attention des gens. Enfin, c'est né de ça, en fait, d'un questionnement sur à quel point est-ce que l'attention des gens aujourd'hui devient une spéculation, enfin objet de spéculation pour les lobbies de la télévision déjà il y a quelques années, et puis aujourd'hui Internet, les GAFAM, enfin voilà. Donc je pense que c'est né vraiment d'une interrogation qu'il avait déjà lui de base, et que de rencontrer les écrits de Bernard Noël, qui est donc, pour préciser un peu qui est Bernard Noël, un auteur poète, enfin et essayiste français, qui est un des derniers à avoir été censuré, mais d'une vraie censure étatique, pour justement outrage aux mœurs, aux bonnes mœurs et pornographie, avec un ouvrage qui s'appelle Le Château de Seine. Ah, il y a de la vie dans le théâtre. Le Château de Seine, qui est donc un livre où Bernard Noël, enfin, fait exprès d'invoquer des images qui sont hors de toute morale. Et donc, ça a une incidence politique forte, quoi. Et en fait, enfin, je pense que le fait d'être censuré par la suite, ça a développé chez lui tout un questionnement sur qui censure. Et qu'est-ce que la censure finalement ? Et la censure est peut-être une privation, enfin pour lui en tout cas, est une privation de sens. Au sens, on nous coupe de nos sens. Parce que pour lui, son livre et cette œuvre étaient finalement une invitation à explorer nos sens. Enfin voilà, un livre nous plonge bien souvent dans, enfin à travers l'exercice de la vue, mais après dans des sensations, des voilà. Et donc, derrière tout ça, il a développé toute une... Dans l'outrage aux mots, il développe tout un questionnement sur la censure étatique aujourd'hui et l'économie de l'attention qui nous coupe aussi, d'une certaine manière, de nos sens et sous couvert de liens, nous coupe des autres, en fait. Voilà. C'est tout le paradoxe de la technocratie dans laquelle on est aujourd'hui. Mais on va dire que Bernard Noël était presque... un précurseur de cette pensée-là que développe aujourd'hui Stiegler, qu'ont développé Günther Anders sur l'obsolescence de l'homme, la servitude volontaire. Après, ça fait longtemps que ce sont des sujets présents dans la société, mais voilà quoi.
Eh bien, c'était donc Chloé Giraud de la compagnie Actée à nos micros. Quelques dates, on va pousser cette fin d'émission. Quelques dates, Nathalie, quelques dates, Cécile, à nous donner.
Oui, alors, reprise normalement de réouverture des salles de théâtre à partir du 15 décembre à la Autangramme. Et du coup, au Théâtre Legendre, Il Viaggio, musique baroque, le vendredi 18 décembre à 19h. Pour être entré avant le couvre-feu. Voilà. Donc 19h, poème harmonique, Vincent Dumès, c'est la crème top de la musique baroque. C'est vraiment là un beau concert avant les vacances de Noël, ça fait du bien. C'est une très grande qualité. Et puis on aura un deuxième concert en parallèle,
ouais,
avec en musique actuelle au Cube, ouais, avec Terre Noire
et Adélis.
Et Adélis en première partie. Vous avez fait des petites bulles là-dessus.
Oh oui, ouais, oui, nous en avons parlé, bien entendu. Elle fait partie de nos chouchoutes.
Et voilà. Et alors toujours en version assise, bien entendu. Assis, masqué. Mais plus que jamais, les salles de concert. Je parle des salles de concert. Ont besoin du soutien du public. Oh, oui. Oui, c'est pas comme avant. Oui, c'est pas toujours très fun. Mais et les salles et les artistes surtout ont besoin que le public soit au rendez-vous. C'est devenu un acte militant d'aller dans des concerts, même si oui, c'est pas encore revenu comme avant. Mais voilà, on a une petite fenêtre là où on peut reproposer des concerts, donc il faut
allons-y.
Profitons-en exactement. Ce qui nous une autre date peut-être.
Non, après.
Parce que c'est pas la folie des dates.
C'est pas la grande folie. Après, moi, on n'a pas vraiment le temps. Si, oui, il y avait l'idée qui est lancée par le comptoir des loisirs, ouais, et Ville d'Évreux sur la boîte de Noël. collecte où on prend une boîte de chaussures puis on y met un produit d'hygiène, une petite surprise, un vêtement chaud, on l'emballe avec du joli papier cadeau, on met si c'est pour un homme, une femme ou un enfant et puis on vient déposer cette boîte dans les magasins ou les points de collecte de cette opération caritative. Et voilà, je trouvais que cette opération était assez chouette, simple, à la portée de tous dans nos foyers. Voilà. Et puis, comme ça, tout le monde peut partager Noël.
Très bien. Eh bien, ce qui nous amène à la fin de cette émission avec un choix d'extrait de film, Nathalie.
Oui. Alors, c'est quand même Noël, hein, dans le mois. 25 décembre, on l'a pas oublié. Et je voulais faire un petit hommage à cette ambiance en vous proposant un extrait du film de Martin Scorsese, Hugo Cabret. Alors là, on est dans l'univers à la Dickens, mais c'est avec des décors fabuleux, l'histoire de ce petit garçon qui va partir à la recherche de son père et de toute son histoire à travers le temps, qui va remonter le temps à travers un automate et une horloge. Voilà, c'est un superbe film de cinéma. Allez-y, téléchargez-le, faites-vous plaisir en famille à partir de 6 ans. Non mais non, payant. Hein.
J'ai jamais dit le contraire.
Ah bah bien sûr. Attends. Ou si vous avez la cassette. Ah, si vous avez la bonne vieille cassette, là, vous la mettez dans l'appareil.
C'est 2011 quand même, on faisait plus de cassette déjà à cette époque-là, Nathalie.
Non, mais c'est un revival, ça peut revenir.
Hein. Je vois pas l'intérêt. Autant le vinyle, je vois bien pourquoi. Avec la cassette, je vois pas pourquoi.
Non, c'était mort. Bah, si. Ça se coinçait, puis ça se rembobinait.
Bah écoute, on sait quoi offrir à Nathalie pour alimenter son magnétoscope qu'elle a gardé.
Sortez vos vieilles VHS, voilà.
Nathalie est preneuse, très bien.
Je crois qu'il faut qu'on arrête là.
Faut qu'on arrête.
On lance le film. On a perdu Nat.
Très bien, on se retrouve en janvier, le premier vendredi de janvier. On vous concoctera une très belle émission. Bon, moyen, premier ou deuxième, c'est ça.
Oui.
Bon,
voilà.
Vous verrez bien.
Enfin, soyez attentifs. Quoi.
En janvier, on se retrouve.
Allez. On vous embrasse.
Comment tu t'appelles, petit ?
Hugo. Hugo Cabret.
Un souvenir de son passé.
Qui l'a fabriqué ?
Ce doit être un magicien. Je n'en ai jamais vu d'aussi compliqué de toute ma vie.
On peut le réparer ?
Bien sûr, on peut.
Une rencontre mystérieuse.
Hé ! Où est-ce que tu as eu ça ? J'en ai besoin pour réparer quelque chose. C'est extraordinaire.
Un secret.
Qu'est-ce que c'est ?
Je pense que c'est un message de mon père.
Pourquoi ma clé s'adapterait à la machine de ton père ?
Pour retrouver son chemin.
C'est un endroit dangereux, tu sais. Fais très attention.
On va avoir des ennuis.
Oui, mais c'est ça l'aventure.
Tu as essayé d'oublier le passé depuis si longtemps. Il est peut-être temps d'essayer de t'en souvenir.
L'histoire n'est pas finie.
Martin Scorsese vous invite à vivre une incroyable aventure.
Arrêtez cet enfant ! Attrapez-le !
Il était une fois un garçon nommé Hugo Cabret, parti à la recherche d'un message secret.
Il faut que je comprenne ce qu'il veut dire.
Et voici comment ce message...
Hugo !
...allait guider sa route vers une nouvelle famille.
Hugo Cabret.